Et j'ai plus cette joie-là que de vouloir faire ce que moi je viendrais. On va continuer de lire. La première des choses que je voulais que l'on voit, c'est de prendre l'exemple de Caïn et de ne pas faire à notre tête. Est-ce que Caïn savait ces choses-là avant d'offrir son offrande? Je ne sais pas. Mais une chose que l'on sait, c'est que quand il l'a offert, Dieu n'a pas porté un regard favorable. Et ça, Caïn l'a su. Parce que ça l'a irrité. Parce que ça l'a abattu aussi. Mais on doit prendre l'exemple de Caïn aussi et de ne pas faire la sourde oreille. Les choses que Dieu nous dit peuvent nous déranger. On doit écouter ce que Dieu a à nous dire. Les conseils qu'il a à nous dire. Et je trouve intéressant, au moment, à l'endroit où ça se place présentement, Genèse 4, c'est il y a eu Adam et Ève qu'on a vu que leur péché a été révélé, qui était le premier péché. Mais on voit très rapidement après, le chapitre 3, mais le chapitre 4, on arrive, deux enfants qui naissent, puis un péché qui arrive. Un très gros péché. Le péché n'a pas de prix de temps. Et on imagine qu'il y en a eu entre-temps avec Adam et Ève par la suite. Mais celui qui est révélé, c'est celui qui s'est passé entre Caïn et Abel. Et ce péché-là, Dieu va intervenir. Puis il va dire, dans ce premier péché-là qui est révélé après la sortie du jardin d'Éden, qu'est-ce que tu dois faire avec le péché? Qu'est-ce que je dois faire avec le péché? Qu'est-ce que je dois faire avec ce que Dieu me reproche? On va lire les versets 6 à 8. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ce désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il y a un mot important là-dedans que je veux que l'on retienne. Je vais vous le dire juste tantôt. Mais en fait, il y a plus qu'un mot, là. Mais il y en a un qui est point tournant, qui est un point tournant dans ce qui s'est passé avec Caïn et qu'on ne veut pas reproduire. L'Éternel a dit à Caïn, pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Est-ce que Dieu le savait? Oui, il savait. Mais c'est intéressant que de voir comme Adam et Ève qui avaient péché puis que là, ils sont cachés, Dieu vient au-devant. Puis Dieu s'approche. Adam, t'es où? Et là, Dieu s'approche. Caïn, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Est-ce que Dieu s'éloigne de nous quand on a du péché dans notre cœur? Mais certainement qu'il y a une distance à cause de mon péché, mais est-ce que Dieu ne veut plus s'approcher de moi? Non, il veut s'approcher de moi encore. Caïn, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Et de voir cette intervention-là divine qui est très tôt dans le temps, qui est encore dans le cœur de Caïn et que Dieu intervient. C'est là qu'il faut prendre la décision. C'est là qu'il faut rapidement intervenir. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » C'est le conseil que Dieu a donné à Caïn pour que le péché, finalement, n'ait plus d'emprise dans sa vie, pour qu'il ait la joie de continuer de servir Dieu. Tu vas relever ton visage. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Se battre contre le péché, c'est déjà difficile. C'est difficile que d'avoir la victoire complète quand on laisse le péché germer puis grandir, puis que là, on a l'impression de se battre contre un géant. Mais Dieu est en train de dire, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Et c'est encore plus difficile si on entretient cette attitude-là dans notre cœur d'irritation, de découragement, de frustration, de colère, et tout ça à cause de notre péché. C'est encore plus difficile. Mais le conseil que Dieu donne, la repentance, c'est quoi? Est-ce que c'est juste de ne plus pécher? Non. Ne pêche plus, mais fais le bien. C'est le principe qui nous est dit au travers des Écritures. Tournez dans Éphésiens. On va lire deux textes. On va commencer avec Éphésiens, après ça, on va aller dans 1 Pierre. C'est déjà des choses que vous avez entendues, mais du moins qu'on veut prendre exemple sur la vie de Caïn et de voir comment est-ce que lui aurait dû le mettre en pratique. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Le premier conseil dans les Écritures de la part de Dieu donné à un pécheur, si tu fais le bien, tu vas relever ton visage. Et ce que Dieu s'attend de nous, quand on se repent de nos péchés, c'est de faire le bien, de faire l'obéissance. Regardez dans Éphésiens 5, versets 28 et 29. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Celui qui volait, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je vous ai induit dans l'erreur, là. Éphésiens 4, excusez, je vous ai dit 5. C'est bon, vous êtes des bons gens, des bonnes gens de béret qui vérifient dans les Écritures. Vous voyez, je suis dans l'erreur. Versets 28 et 29. Alors que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dieu, si on était des voleurs, qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? Première des choses, qu'on arrête de voler. Puis deuxième chose, qu'on fabrique de nos mains ce qui est bien, dans le but de quoi? De donner. Comment je lutte avec le péché? Je lutte en faisant le bien. Je lutte pas seulement en arrêtant le péché, mais en faisant aussi l'obéissance que Dieu veut que je fasse. C'est de cette façon-là que je vais avoir la victoire aussi dans ma vie. Ce n'est pas seulement en faisant une abstraction d'une activité ou d'un geste ou d'une pensée ou de peu importe, mais c'est de faire le bien aussi. On pourrait continuer verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Si de ma bouche sortent seulement des paroles qui blessent, je peux aussi bien garder le silence. Et s'il sort des paroles de ma bouche, mais qu'elles soient édifiantes, que de parler plutôt que de parler, de dire des paroles qui sont mal, qui sont mauvaises, que je dise des paroles qui sont édifiantes maintenant. Alors, si tu fais le bien, tu vas relever ton visage. Tournez dans 1 Pierre, juste un petit peu plus loin. Après ça, on revient dans Genèse. 1 Pierre 3. Premier conseil que Dieu a donné, on a vu que Paul répète la même chose. Abandonne le mal, abandonne le péché, puis fais le bien. Pierre, il va dire exactement la même chose. Regardez à partir du verset 8, 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, mais bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un veut en effet aimer la vie, si quelqu'un veut relever son visage et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu veut qu'on arrête de faire le mal, puis qu'on fasse le bien. Puis on pourrait continuer, je vais continuer jusqu'au verset 17. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Caïn? Mais d'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Ce que Dieu veut que l'on fasse, c'est le bien. Qu'on arrête le mal et qu'on pratique le bien. C'est le commentaire que Dieu disait. Et quand même, Pierre il dit au verset 14, « D'ailleurs, même si vous devriez souffrir pour la justice, vous seriez quoi? Heureux. Est-ce qu'on est heureux à faire le bien? Est-ce que le conseil que Dieu a dit était vrai? Si je fais le bien, je vais relever mon visage? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça se peut que les gens autour de moi, ça les accuse et puis que ça me crée quelques tribulations, que je pratique le bien? Oui, ça c'est l'exemple d'Abel. Ça frustrait son frère Caïn que de voir Abel offrir des sacrifices, de faire le bien et que tout à coup, Dieu porte un regard favorable sur lui. Et Caïn a porté une action qui était regrettable sur Abel. Mais Dieu veut que je fasse le bien et que quand même que ça me crée quelques tribulations, je vais être heureux. L'enfant de Dieu va trouver son bonheur, sa joie à faire le bien, à faire l'obéissance. Et en pratiquant, en tolérant, en acceptant le péché dans ma vie sans m'y repentir, mais il va arriver cet exemple-là qui est arrivé à Caïn, où l'irritation va être dans mon cœur, l'abattement va être dans mon cœur, la déception. Peut-être que je vais avoir de la difficulté à marcher avec Dieu. Et avec raison, parce que je ne lui obéirai pas. Revenez dans Genèse 4. Si quelqu'un veut avoir des jours heureux, aimer la vie, relever son visage, mais qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Si tu agis bien, alors ta tête se relèvera. C'est intéressant de voir que les actions que je fais, l'obéissance que je fais, va m'amener à la joie, va m'amener à relever mon visage, à l'encouragement, à ce que je vais avoir cette joie-là. Pourquoi? Parce que Dieu va porter un regard favorable sur moi et sur mes offrandes. Mais le fait que Dieu détourne son regard ou que Dieu ne porte pas un regard favorable, ça va me décourager. Ça va m'amener des difficultés à continuer de persévérer. Et tout ça à cause de mes actions, à cause de mes choix. Mais si je fais le mal, regardez, on va finir le verset 7. Et si tu fais le mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché, si je fais le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la porte. Et là, si je ne change pas mes actions, si je continue de faire selon ma propre volonté, selon mon propre désir, selon ma propre conception de régler le péché dans ma vie, je suis en train de dire au péché, reste là, là puis ne bouge pas. Mais le péché, il se couche là, puis il ne se tanne pas d'attendre. Puis il va attendre là, tant aussi longtemps que je vais ouvrir juste la porte un petit peu, puis pouf, il va entrer. Il ne prendra pas grand temps. Et ses désirs, si je le laisse là, qu'est-ce qui se passe? Ses désirs se portent vers moi. Tentation, elle est là. Et je ne serai pas capable de lutter. Est-ce que je peux lutter de ma chair, moi-même, de ma propre force contre le péché? Je vais avoir des difficultés. Je vais avoir des difficultés. Mais je ne dois pas laisser le péché qui reste là. Et comment je fais pour que le péché ne reste pas là? Mais je dois faire le bien. Mais si je fais le mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Dieu est en train de révéler comment est-ce que le péché agit. Et pour Caïn, c'était, on imagine, un aspect quand même relativement nouveau, bien qu'il y a eu une vie avant ça, il a dû en faire d'autres péchés. Mais ce que l'on connaît de ce que Dieu vient de révéler, c'est fais attention au péché, parce qu'il est dangereux, parce qu'il est subtil. Tu ne le vois pas parce qu'il est couché, il est couché sur le tapis là, à l'entrée de la porte, là, mais c'est un chien méchant qui cherche juste à te sauter dessus. C'est ce que Dieu est en train de dire. L'idée de faire le bien, c'est de ne pas m'exposer aussi à la tentation, de ne pas m'exposer aussi au péché, de par mes propres forces, de par mes propres moyens. Si je pourrais citer plein d'exemples, un exemple classique, si je suis quelqu'un qui a une difficulté avec l'alcool, je ne ferais pas exprès pour aller parler avec des gens dans une taverne ou dans un bar ou peu importe. Je ne vais pas aller m'exposer. Je ne ferais pas exprès pour que la tentation soit forte sur moi. Si j'ai des difficultés avec ce que je regarde à la télévision, bien, je vais sortir de la télévision de l'endroit où je me cache pour aller la regarder, ou l'ordinateur, ou ce que j'écoute, peu importe les choses que j'écoute. Alors, ce que l'on doit faire, c'est dans ces moments-là, où ce que le péché se couche à la porte, bien, je dois faire le bien pour qu'il s'en aille. Puis faire le bien, ça implique aussi d'enlever toute exposition. Vous vous souvenez de l'exemple de Joseph qu'on cite souvent, mais quand la femme de Potiphar sautait sur lui, bien, il a couru. Puis aussi loin qu'il était tellement fatigué qu'il n'aurait même pas eu le désir de revenir. Et c'est ça, de fuir la tentation. Jésus disait la même chose, vous vous souvenez? Il disait que si ton œil est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Tu l'arraches puis tu le lances. Il n'y en aura plus de problème. Mais il faut bien comprendre aussi l'image qui est derrière ça, qui est de ne pas s'exposer à la tentation. Il ne faut pas se penser plus fort que ce qu'on est réellement. Dieu est en train de révéler l'état de l'homme. Il est en train de dire le péché, il est là, puis il est dangereux. Puis fais attention. Et Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Le péché, c'est un fardeau. Le péché nous enveloppe facilement. Il est déjà lourd et on ne veut pas jouer avec le feu. On ne veut pas jouer avec la tentation. Dans ces moments-là, où est-ce que ça va bien avec Dieu, où est-ce qu'on est fort, on doit prendre des résolutions pour dire, je connais les points de tentation dans ma vie, je connais les points fragiles de ma vie et je dois prendre des moyens pour que cette tentation-là devienne presque inexistante. Et pas juste de lutter contre le péché que je laisse à la porte, puis que je vais lutter contre lui, mais de prendre les dispositions pour que ça change, pour que la tentation soit coupée. Si on donne du temps à la tentation, elle va finir que par engendrer de la convoitise. Il ne faut pas donner de temps à la tentation. Dès qu'elle arrive, il faut qu'elle soit coupée. Et si c'est une tentation qui revient souvent, mais je prends les moyens pour qu'il y ait un mur pour plus que je sois affecté par cette tentation-là. Et si la convoitise est engendrée, la convoitise est un péché. La tentation est quelque chose que je dois refuser, qui n'est pas un péché. Mais la convoitise dans mon cœur, c'est un péché. Jésus disait, si tu convoites la femme de ton prochain, bien, tu es adultère. Alors, la convoitise, ça se passe dans mon cœur. Et si je donne la convoitise, si je donne à la convoitise du temps, il va finir que par se produire l'action, en bout de ligne aussi. Pas juste ce qui est dans mon cœur, mais si je donne du temps à la convoitise dans mon cœur, il va finir que par se produire quelque chose. On entend parfois parler de scandale parmi les chrétiens, d'une personne qui est partie avec une autre, ou peu importe quel est le scandale, ça a commencé juste à germer dans le cœur au début. C'est jamais arrivé, paf, ça a frappé sur la tête de personne, puis là, il est arrivé une situation, ça a commencé dans le cœur doucement. Il y avait de la tentation, on lui a donné du temps, ça a donné de la convoitise. La convoitise, elle n'a pas été confessée, elle n'a pas été abandonnée, repentie de cet agissement-là, on lui a donné du temps, puis qu'est-ce qui se passe? Maintenant, l'action se produit. On ne doit pas donner du temps à la tentation, on ne doit pas donner du temps à la convoitise. C'est intéressant de voir, je ne sais pas, hey boy, quel temps passe vite. Rapidement, le mot péché ici qui est cité, on pourrait le traduire de deux façons, péché et sacrifice d'expiation. C'est intéressant de voir que Dieu est en train de dire, si tu agis mal, il y a un sacrifice d'expiation que tu es là, que tu es en dette, que tu dois. Le péché est un sacrifice que je dois faire. Le péché est une action qui déplaît à Dieu et que Dieu, en échange, s'attend à un sacrifice d'expiation. Et c'est intéressant de voir que ça venait confronter directement l'agissement de Caïn, qui était d'offrir des légumes. Et c'est pas possible de faire un sacrifice d'expiation avec des légumes. C'était ces animaux-là qui devaient aussi verser leur sang pour signifier le fait que le péché a coûté la vie, puisque le sang a coulé. Et Dieu termine en disant, « Mais toi, domine sur lui. » La lutte contre le péché est quelque chose de difficile. Je ne peux pas lutter de moi-même. Je ne peux pas dominer de par ma propre force contre le péché et lui donner du temps et vouloir faire les 12 rounds jusqu'à la fin de lutter contre le péché, contre la tentation. Mais Dieu veut que je domine. Dieu veut que je fasse les bons choix. Les choix qui sont devant moi sont à ma portée. Il n'y a pas personne qui peut dire « Satan m'a obligé de ». On est tous responsables de nos choix. On est tous responsables de ce que l'on fait. Et c'est évident que quand on fait un pas dans la mauvaise direction, puis un autre, puis un autre, puis un autre, la restauration est difficile. C'est lourd. Et peut-être que là, la maîtrise de soi devient de plus en plus difficile. Peut-être que de contrôler, de maîtriser, de dominer sur nous, que le péché ne domine pas finalement, ça va devenir de plus en plus dur. Mais si je prends les moyens et les bonnes dispositions pour me couper de la tentation, de la convoitise du péché, mais c'est sûr que de dominer sur le péché, c'est qu'avant même que la tentation arrive, rapidement je coupe. Dieu est intervenu très tôt dans le processus où Caïn était irrité. On doit prendre l'exemple de la vie de Caïn et de ne pas faire la sourde oreille au conseil que Dieu a donné. Puis malheureusement, Caïn, il a fait la sourde oreille. C'est le mot important où est-ce que je viens d'en venir. Regardez le premier mot du verset 8. « Cependant ». C'est là que ça s'est passé. Caïn vient d'enfourcher une voie qui va l'amener à des conséquences qu'il ne pourra plus reculer. Ça va l'amener à des conséquences qui vont être dures pour lui, où ce que la manifestation de son péché, de ce qui est dans son cœur, va l'amener à des conséquences graves. Cependant, Caïn a dit à son frère, « Hé, Abel, viens ici, viens voir mes nouvelles tomates. » Et puis là, Abel arrive. Regarde les tomates, paf, une roche en arrière de la tête, puis il meurt là. Caïn a tué son frère par manque d'amour fraternel, parce qu'il n'a pas aimé son frère, parce qu'il n'a pas aimé ce que Dieu lui demandait, parce qu'il n'a pas aimé Dieu. Il a révélé son péché finalement, et il a tué son frère. Cependant, Caïn n'a pas écouté le conseil de Dieu. Que ça ne soit pas notre vie, que ça ne soit pas notre exemple. On ne sait pas c'est lequel des péchés dans nos vies qui peut mener à une fourche à laquelle on ne pourra plus revenir. On pourra toujours obtenir le pardon de Dieu. Mais il y aura des conséquences dans nos vies qui peuvent être là, qu'on ne pourra jamais revenir. Et Caïn a pris cet embranchement-là qui ne pourrait plus revenir. Et on ne sait pas c'est quel péché. On ne peut pas sous-estimer même le plus petit des péchés. Quand on pense à ça, là, c'est banal pour Caïn. Que d'aller voir son frère, dire j'ai du troc avec toi à faire, regarde, je te donne tant de légumes, tu me donnes un agneau parce que je veux sacrifier pour Dieu. Je suis sûr que Abel aurait accepté ça. Est-ce que c'était banal? À quelque part, c'était à sa portée, cette action-là, cette obéissance-là. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas obéi. Et c'était banal le péché qui a commencé dans le cœur de Caïn, mais qui a pris des proportions gigantesques. Dieu savait bien qu'en laissant tomber la graine du péché dans notre cœur, qu'il allait germer un arbre rapidement. Et puis que finalement, le contrôle allait être perdu. Alors, on va finir de lire les versets 9. On va lire le verset 9.